France Musique.
Merci Philippe Cassard, rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles notes du traducteur.
1, 2, 3, pas. Hein ? Encore une fois ?
Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission d'origine contrôlée. Dernière émission sur la thématique du patchwork. Pour terminer en beauté cette mise en abîme de notre Cri du Patchwork, j'ai invité des voix connues, ou pas, sous forme de faux débats autour du collage, du montage, du patchwork. Une bonne conclusion, en montage de voix chères qui se sont tues, ou presque, pour terminer notre année de patchwork. Et pour ce samedi, un zoom sur une œuvre toute récente et un son décousu et recousu. Le cri du patchwork, thème numéro 9, épisode numéro 4, séquence numéro 1.
Hé, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore ?
Pas étouffé.
Eh oui.
Le son de la semaine.
No.
Nie.
Dong malande.
Dwai una.
No.
Hai.
Ho wat han.
No.
Bie pang wo.
No.
Nazo.
No.
Nein. An de.
Alam.
Hone.
No.
No.
Shakwina mo.
Una.
Ta ta hai.
Nie. Bie pang wo.
Nai.
Kun kai.
Nein.
Le polyglottisme. Toute composition cherchant à mélanger plusieurs langues différentes pour dire la même chose, comme dans le Celebration of No de Sorel Hayes que nous venons d'écouter, ou pour dire des textes différents, créant des contrepoints de langue. Comme dans ce poème sonore de Lajos Kassak, Bruit Noise, créé en 1920 et reconstitué ici en 2002, à partir de plusieurs enregistrements de personnes lisant le journal et un poème graphique de Kassak. Une représentation du polyglottisme chez les activistes hongrois du début du XXe siècle. On peut également juxtaposer les différentes langues sous forme de collage ou cut-up, comme le fait Ferdinand Krivet, compositeur de Hörspiel, c'est-à-dire des pièces radiophoniques, où il utilise les particularités du médium de la radio, passer d'une fréquence à une autre, d'un programme à un autre, pour après composer avec les caractéristiques de chaque langue.
Do posłuchania edycji Emilii Stawskiej.
Portugiesa brasileirish.
Ogur.
Mul zon.
O hotman etedik perzbe.
Mul voleken.
Istoczo niemaczki sasta.
Pere miljor servir.
Jose de muchos a la pen.
Pełnej sprawności.
Patsi giri zegas kolmans kros.
Dasbe gas tobak dikennos.
O barni o galahar.
Tekni o totte.
Asno garch jare.
Fajnajde ksia kajken.
Inna druga.
To bombona.
No, do góry, a pude.
W niedelę o 12.
Telu ala arbaj maudziet.
A po 17.30 to proi.
Agus a.
Graj starodawny.
Hrieldu visiklerschen.
No, no te un teatro.
Pero ahora, de cinco.
Y este es el tema de la madrugada, evidentemente. De la madrugada y de la madrugada.
Faut-il tenter de comprendre ce qui est dit par toutes ces langues ? Ou simplement se laisser porter par la musicalité du montage obtenu. Le questionnement se pose aujourd'hui au sujet des motets composés au XIIIe et XIVe siècle. On connaît en effet le grand attrait des clercs musiciens de l'époque pour la superposition simultanée de plusieurs textes différents, débattant souvent sur le même sujet. Appelés motets, ce genre incroyable et hyper moderne pose réellement la question de son écoute et de sa compréhension. En effet, deux, trois ou quatre voix portent un texte différent, soit dans la même langue, soit dans des langues différentes, comme dans ce motet anonyme du manuscrit de la Clayette. Deux voix chantent en français, une voix en latin, et la dernière, la teneur, est elle-même issue d'un chant liturgique en latin. Un fatra pour les oreilles et le cerveau. Ce goût pour la superposition de langues différentes tombe en désuétude à la fin du Moyen-Âge, pour ressurgir au début du XXe siècle, en particulier chez les Dada, qui ne se posent plus la question de la compréhension, jusqu'à inventer de nouvelles langues totalement folles, des mélanges de bribes de langues existantes. À la suite des poèmes sonores Dada de Kurt Schwitters ou Raoul Hausmann, le poète et compositeur Hans Gunther Helms crée des Sprachmusikkompositionen, des compositions paroles-musique, où il relie l'organisation de la langue à l'organisation des sons. Les langues nouvelles qui en ressortent nous parlent de cette métalangue que James Joyce avait atteinte dans son Finnegan's Wake, livre de chevet de quantité de compositeurs du XXe siècle. Voici l'imprononçable Fa ums agnes vö de Hans Gunther Helms.
Mi pneumur fiespes wechsel drill kloskel managisma riasae tal denmelend de pössia pneumatoxen Shalom managomonischlik, o herselbe geil, fin latitsk latmamur. Vivitan danst, wimposch, viplash, shivatifsti, vimoral.
En parlant de Joyce, il est un compositeur qui s'est trouvé confronté à l'utilisation de la langue dans Ulysse ou Finnegan's Wake. C'est Bernd Alois Zimmermann. Compositeur polyglotte et observateur des musiques médiévales, il va progressivement insérer dans ses compositions une multiplicité de langues, à l'image du motet pluritextuel du Moyen-Âge. Comme dans Antiphonen, pour alto et ensemble, en 1962, où l'on trouve un amoncellement de langues, soudainement, dans le quatrième mouvement de l'œuvre. Zimmermann intègre des fragments nombreux de textes de la littérature, distribués entre les musiciens de l'ensemble. Entourant l'alto solo, huit langues différentes tissent une toile polyglotte en contrepoint, à l'image d'un motet moderne sur du Albert Camus, du James Joyce, du Dostoïevski et la Bible. «
And then I asked him with my eyes to ask again, yes. And then he asked me what I said, yes. And first I put my arms around his neck and threw him down to me so he could feel my breast all perfume. Yes.
Abundante gracia.
And his heart was going like mad, like mad. And yes, I said, yes, I will. Yes, I said, yes, I will. Yes.
Yes, I will, yes. Ce sont les derniers mots de Ulysse, de James Joyce. Les mêmes mots qui commenceront quelques années plus tard, le Requiem pour un jeune poète, monument de polyglottisme de Zimmermann. D'ailleurs, est-ce que Zimmermann lui-même, croyant et pratiquant catholique, s'adresse à une capacité de compréhension supérieure? On dit, c'est une hypothèse, que les motets du Moyen-Âge ne pouvaient être compris que par Dieu, bien placé pour comprendre la superposition de langues. Peut-être un écho à la punition divine infligée au constructeur de la tour de Babel, voué à ne plus se comprendre alors qu'il parlait une langue unique. Bernard Faure, dans sa cantate de 1991 intitulée « Méditation sur la tour de Babel », fait lire des extraits du Nouveau Testament par 6 femmes et 6 hommes en 12 langues, tandis qu'un chœur chante d'une seule voix, la tour de Babel comme un contrepoint polyglotte.
« Now the whole earth had one language and one speech. »
Alle Menschen hatten die gleiche Sprache und gebrauchten die
gleichen Worte.
Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras.
Rien d'être dire fanon
à tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots.
Et l'or aurait bougé, aurait vacré le
pain-pince.
Se kaiju wa onaji kotoba o tsukatte, onaji yo ni hanashite itta.
Als sie von Osten
Senar.
Retrouver la langue unique. Umberto Eco, dans son livre « La recherche de la langue parfaite », nous parle des nombreuses tentatives européennes pour retrouver la langue adamique, celle d'Adam, précédant l'épisode de la tour de Babel. Jusqu'à la création de l'espéranto, seule tentative qui connaît aujourd'hui de nombreux adeptes dans le monde. Deux compositeurs se sont investis dans l'espéranto, David Gaines et Lou Harrison. Tous deux américains, devenu ambassadeur de l'espéranto dans le monde. Comme dans le chef-d'œuvre de Lou Harrison, la Koro Sutro, écrit en 1973, réunissant 100 choristes et un gamelan américain, inspiré du gamelan javanais, mais joué sur des instruments tempérés. La Koro Sutro veut dire en espéranto « la sutra du cœur ». Et en effet, la musique de Lou Harrison, modale et planante, est une combinaison des traditions asiatiques avec la musique américaine post-68. Une musique polyglotte pour une langue unique.
<t'->
Mais déjà à la Renaissance, bien avant l'espéranto, on rencontre des langues qui tentent la réunion de plusieurs autres langues. Comme dans cette chanson qui ne semble rien dire, mais peut-être ne sommes-nous pas initiés. La tricotea, ou comment synthétiser français, italien, allemand, espagnol, et pourquoi pas le flamand. Dada, la Renaissance ?
Vous voyez qu'on y arrive. Hein? C'est pas compliqué quand même.
France Musique.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun. Messieurs, dames, bonjour.
Bonjour,
bonjour.
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 Bonjour, Clément Lebrun.
Je suis très heureux de recevoir vos voix pour nous entretenir ensemble sur les collages, patchwork et montages qui vous hantent depuis longtemps. Alors je me lance, si je vous dis que le collage est un jeu d'enfant, vous me dites...
Il y avait cette
variété d'expression...
Oula, oula, je vois que vous avez envie de parler en collage, ça tombe très bien, c'est le sujet. Alors j'ai reçu lors de notre première émission sur le patchwork le musicologue Jean-Yves Bosseur qui affirmait trouver dans le début du XXe siècle les sources mêmes de l'esthétique collagiste. Est-ce que vous corroborez Karl-Heinz Stockhausen peut-être ?
La première moitié du siècle était fortement déterminée par l'esprit de collage. L'œuvre de Varès montre ça très bien, qui va très loin d'ailleurs, et qui arrive, techniquement parlé, à la musique concrète finalement, où on enregistre même les sons de la nature. Et par nature, je veux dire aussi le trafic moderne. Les bruits qui se font par des machines modernes, etc. Et d'autre part, le collage de tous les phénomènes, des langues, les consonnes deviennent très importants. Les cris, les... chuchotements, les clics. Aujourd'hui, les hommes vivent en Amérique, par exemple, comme on a composé les œuvres d'art dans la première moitié du siècle.
Sur l'influence des arts plastiques dans les structurations par collage de la musique, je pense que nous pouvons pour cela nous fier aux propos de Max Ernst. Alors, Max Ernst, est-ce que cette technique du collage est à la base de ce que dadaïstes et surréalistes ont pu créer ? Alors, toute la variété des médiums, des œuvres de vos contemporains, est-elle née de cette libération que représente le collage ?
Cette variété d'expression est le résultat des méthodes employées par les peintres surréalistes. Elles ne tracent pas de limites à leurs expériences. Ces méthodes s'attaquent à désintégrer continuellement les phénomènes de la vie et de la nature pour les réintégrer sur un plan supérieur, le plan du surréel. Pour définir leur mission, j'ai autrefois employé les termes suivants. De même que le rôle du poète, depuis la célèbre lettre du voyant, consiste à écrire sous la dictée de ce qui se pense, ce qui s'articule en lui, le rôle du peintre est de cerner et de projeter ce qui se voit en lui. Comme un des moyens pour atteindre cette voyance, j'ai proposé l'accouplement de deux réalités en apparence inaccouplables sur un plan qui, en apparence, ne leur convient pas. Méthode connue sous le terme collage.
Quand vous parlez d'accouplement en parlant de collage, Max Ernst, ça me fait penser à une nouvelle d'Alphonse Allais. C'est l'histoire d'un médecin de 55 ans, le docteur Snowdrop, tombé amoureux d'une jeune fille rousse, Bertha. En l'épousant, il lui dit « Bertha, si jamais vous me trompez, arrangez-vous de façon que je l'ignore, dans votre intérêt. » Mais Bertha trompa son mari et celui-ci l'apprit, car l'infidèle avait eu l'imprudence d'écrire à son jeune amant
« Être toujours avec toi, ne jamais nous quitter, de nos deux êtres ne faire qu'un être. »
La lettre où flamboyait ce passage tomba dans les mains du docteur qui se contenta de murmurer
« C'est très faisable. »
Le soir même, on dîna au White Oak Park, une propriété que le docteur possédait aux environs de Pigtown. Pendant le repas, une étrange torpeur, invincible, s'empara des deux amants. Aidé de Joey, un nègre athlétique qu'il avait à son service depuis la guerre de sécession, Snowdrop déshabilla les coupables, les coucha sur le même lit et compléta leur anesthésie grâce à un certain carbure d'hydrogène de son invention. Il prépara ses instruments de chirurgie aussi tranquillement que s'il se fût agi de couper un corps à un Chinois. Puis, avec une dextérité vraiment remarquable, il enleva, en les désarticulant, le bras droit et la jambe droite de sa femme. À Georges, par la même opération, il enleva le bras gauche et la jambe gauche. Sur toute la longueur du flanc droit de Bertha, sur toute la longueur du flanc gauche de Georges, il préleva une bande de peau large d'environ 3 pouces. Alors, rapprochant les deux corps de façon que les deux plaies vives coïncidassent, il les maintint collés l'un à l'autre très fort au moyen d'une longue bande de toile qui faisait 100 fois le tour des jeunes gens. Pendant toute l'opération, Bertha ni Georges n'avaient fait un mouvement. Après s'être assuré qu'ils étaient dans de bonnes conditions, le docteur leur introduisit dans l'estomac, grâce à la sonde ésophagienne, du bon bouillon et du Bordeaux vieux. Sous l'action du narcotique, habilement administré, ils restèrent ainsi 15 jours sans reprendre connaissance. Le 16e jour, le docteur constata que tout allait bien. Les plaies des épaules et des cuisses étaient cicatrisées. Quant aux deux flancs, il n'en formait plus qu'un. Alors Snowdrop eut un éclair de triomphe dans les yeux et suspendit les narcotiques. Réveillés en même temps, Georges et Bertha se crurent le jouet de quelque hideux cauchemar. Mais ce fut bien autrement terrible quand ils virent que ce n'était pas un rêve. Le docteur ne pouvait s'empêcher de sourire à ce spectacle. Quant à Joey, il se tenait les côtes. Berthe, surtout, poussait des hurlements d'hyène folle. « De quoi vous plaignez-vous, ma chère amie ?» interrompit doucement Snowdrop. « Je n'ai fait qu'accomplir votre vœu le plus cher. Être toujours avec toi, ne jamais nous quitter, de nos deux êtres ne faire qu'un être. » Et souriant finement, le docteur ajouta, « C'est ce que les Français appellent un collage. »
Souviens-toi la première fois à l'hôtel. aurait un art punk.
Bon.
Revues, affiches, vêtements, livres, pochettes de disques.
Ah, c'est des poires.
Comme Dada, le cubisme, le constructivisme russe ou le pop art, punk utilise le collage et donc le découpage. Découpage de photos de journaux, photomaton, photocopie, polaroid, reprographie offset. Les photos sont recontrastées, solarisées, filtrées, détramées. L'image est déstructurée. À la photo telle quelle, on préfère son décalque, sa photocopie. Reproduction de reproduction, mise en abîme continue. Punk utilise les journaux, l'écriture, mélange les caractères typographiques. Toute lettre est, à la lettre, lettre anonyme. Tout est fait salement, lacéré, déchiré, scotché, juxtaposé, biffé. Superposé, gris sale et noir de rigueur, avec rouge, rose, orange, vert, métallisé et fluorescent.
Peut-être.
Couleur des néons, couleur des signaux. Punk n'informe pas, il n'a pas de message, il signale.
Madame Bichu, encore un verre, s'il vous plaît.
Les références à ces procédures sont moins Dada ou le cubisme que les sérigraphies de Warhol, les trames de Liechtenstein et surtout les montages de Jasper Johns et Rauschenberg.
Ah là là là.
Ces références de l'art veulent sortir le punk du reste, d'où il ne peut pas sortir. Le punk reste le reste du reste.
Christian Marclay, jukebox et auparavant un collage autour de Jane Birkin et Serge Gainsbourg. Alors que ce soit les extraits de Gainsbourg ou les saturations et parasites de la platine de vinyle qu'utilise Christian Marclay, on pourrait appeler cela des objets trouvés dans notre environnement sonore. En somme, le collage tourne autour de ces objets issus du réel, le plus banal qui soit d'ailleurs. Lorsqu'il est collé dans une œuvre hétérogène, cet objet devient alors une œuvre d'art, un peu comme dans les tableaux de Georges Braque. Qu'en pensez-vous, Jean Cassou ?
Eh bien, en effet, à cette obsession de l'objet et à ce besoin de le tuer, s'oppose chez lui une attention passionnée, portée à ces mêmes objets, mais dans le sens de leur survie en eux-mêmes, de leur maintien. Et c'est ainsi que son attention s'est emportée sur ces choses insignifiantes que vous dites, des étiquettes de bouteilles et des bouts de journaux, et il a tenu à les faire entrer alors dans la transcendance de l'œuvre d'art, mais telles qu'elles étaient en tant que matériaux bruts. Et ça a été cette merveilleuse expérience des papiers collés et des matières qui l'a mené en particulier d'accord avec son grand compagnon de jeunesse qui était Picasso, à Sorgue, dans toute cette période-là, et ils ont utilisé du sable, enfin, ils se sont passionnés pour les matériaux, et puis alors pour tous ces résidus de la vie quotidienne que sont les journaux, les prospectus de marchandises, voilà, toutes ces...
Lettres d'imprimerie.
Les lettres d'imprimerie, voilà. Enfin, tous ces infinitésimaux résidus de la vie quotidienne et de la véritable réalité, la réalité vécue.
Finalement, tout cela revient à appliquer des objets sur d'autres supports pour en faire un patchwork. Ah, Denise Terzaghi, ce que je viens de dire vous fait réagir.
Oui, c'est un petit peu différent. L'appliqué, c'est un dérivé du patchwork. Donc, l'appliqué consiste à fixer des formes en tissu sur un autre support, lui-même en tissu. Mmh. Et ceci par un point de broderie, main ou machine. Tandis que le patchwork, qui est très souvent le patchwork américain que l'on connaît, c'est un assemblage de formes géométriques, donc qui sont cousues entre elles.
Alors si je comprends bien, on pourrait dire que le motet du XIIIe siècle, à plusieurs textes, serait une forme d'appliqué, dans le sens où l'on superpose des chansons et textes différents sur une mélodie issue du chant grégorien. Et que par exemple, le zapping actuel est un patchwork de bribes cousues entre elles, comme vous le dites.
Ah ben, l'appliqué est encore, je pense, beaucoup plus vieux que le patchwork, parce que on sait que les Perses utilisaient déjà l'appliqué dans leur ornementation, donc de vêtements et de tentures, au 9e siècle avant Jésus-Christ.
Mmh, bien sûr.
Oui. Tandis que le patchwork a été amené par les Anglais aux États-Unis et il a été utilisé surtout au moment de la conquête de l'Ouest, par les Américains, qui avaient besoin d'embellir d'une par leur intérieur, mais d'autre part aussi, il y avait un problème de
récupération.
De récupération, Donc ils n'avaient pas le matériel nécessaire ou ils n'avaient pas les moyens d'acheter des couvertures, donc ils récupéraient tous les morceaux de tissu usagés qu'ils possédaient et ils coupaient donc des formes géométriques dedans et assemblaient le tout pour faire des couvertures.
Ma chère Denise, je vous propose d'écouter une œuvre qui mélange à la fois l'appliqué et le patchwork. Musique pour les soupers du roi Ubu de Bernd Alois Zimmermann. Tout est écrit pour grand orchestre, sans utilisation de bande magnétique. Une œuvre cousue de fil blanc. Un extrait des musiques pour les soupers du roi Ubu de Bernd Alois Zimmermann. Alors évidemment, on se pose la question des droits d'auteur, à part quand les compositeurs sont tombés dans le domaine public. Emprunter des objets trouvés comme dans l'œuvre de Zimmermann, est-ce tomber dans le plagiat? La meilleure réponse est d'écouter un extrait des Plunderphonics de John Holzbald. Un album devenu mythique car interdit à la vente en partie à cause de sa pochette. Une reproduction de l'album Bad de Michael Jackson sur le corps duquel est collé le corps nu d'une femme. Le scandale du vol et du collage. We'll be right back. quand on entend les Plunderphonics de John Oswald, on voit qu'il y a des techniques vraiment différentes dans le collage. À votre époque, comment considère-t-on ce collage, Max Ernst ?
C'est l'exploration et l'exploitation par des moyens appropriés et rationnels du sentiment d'absurdité qui s'empare de nous quand nous braquons nos yeux sur le monde qui nous entoure, suivi d'un effort pour systématiser et surmonter ce dépaysement. C'est l'assaut de l'irrationnel par des méthodes raisonnées. On voit que la colle y joue un rôle infime. Prenez au hasard les objets qui se trouvent dans votre champ visuel. Un poisson rouge, par exemple, et une étoile filante. Réunissez-les sur un plan qui, en apparence, ne leur convient pas, sur le haut de la colonne Vendôme. Et vous verrez que l'étoile va rougir et le poisson se mettra à chanter. Prenez un moulin à café, que vous le remplirez de perles fines. Moulez, mélangez la poudre ainsi obtenue avec du beurre fin. Mettez-vous en colère. Étalez la pâte sur les semelles de vos chaussures et offrez cette tartine à la femme de vos rêves. L'opération doit être exécutée avec fureur et de préférence dans la cale d'un bateau à roulettes faisant à toute vitesse la navette entre la gare de l'Est et la gare Montparnasse. Ainsi, vous aurez exécuté un collage classique.
Alors, je suis désolé, monsieur Ernst, je vous arrête parce que nous avons dans le studio la voix de Klaus Huber qui ne cesse de nous chanter des bouts d'une de ses œuvres, Tempora. Klaus Huber, vous auriez pu venir nous voir directement plutôt que de laisser votre voix toute seule. Vous voulez réagir à ce que nous dit Max Ernst ? Vous avez connu, vous, Klaus Huber, la grande période de collages et de citations qui ont fleuri dans la musique écrite au cours des années 60-70. Comment l'avez-vous vécu ?
Il y avait un certain mode, c'est pas une mode, hein, de dire que il faudrait maintenant pas essayer de trouver son style personnel, mais d'inclure. Il y avait la fondation d'une fondation de Charles Ives aux Pays-Bas, Louis Andriessen et d'autres. Et il y avait beaucoup de compositeurs qui se sentaient tout à coup extrêmement libre de prendre tous les vêtements qu'il faudrait, de voler ce qu'on veut. Et ça m'a énervé beaucoup.
Comme quoi on revient toujours au patchwork, au tissu, aux vêtements. Qu'avez-vous fait alors ?
J'ai essayé de faire une sorte de contre-attaque dans mon œuvre Tempora pour violon et 36 instruments, alors violon et orchestre, où j'ai cité des rythmes de Mozart, par exemple tararam 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 tararata yam tadam tam tadam tam tadam bam. Et j'ai cité une citation d'Alban Berg, alors le Lendler. Et alors j'ai problématisé la citation, même j'ai fait des éloges d'Ives qui étaient
Charles Ives, oui,
très, qui ont choqué beaucoup les gens, qu'ils ne comprenaient pas.
Voici Tempora de Klaus Huber, le troisième mouvement, qui s'intitule Quod libet, quod tacet, quod nescitur. Ce qui plaît, ce qui se tait, ce que l'on ignore.
Thank you.
Tempora de Klaus Huber. J'espère, Klaus, que la prochaine fois vous viendrez en chair et en os dans ce studio pour nous en parler directement. Merci en tout cas à tous de nous avoir apporté votre éclairage ou votre ombrage sur le collage et le patchwork. Je ne ferai pas la liste de vos actualités respectives par peur de froisser l'un d'entre vous. Merci et au revoir.
Merci à vous.
Merci. 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 Au revoir.
Le cri du patchwork, Clément Lebrun.
France Musique.
Zoom sur Orior de Antti Auvinen. Une œuvre polyglotte, pluriel, pluraliste, patchwork, etc., etc. Distinguée lors de la 61e Tribune internationale des compositeurs en 2014, Orior, du compositeur finlandais Antti Auvinen, est un choc. On est soufflé par le nombre d'idées que le compositeur déploie à la minute, ou à la seconde. Des langages différents se superposent sans jamais entrer en conflit, mais toujours en tension. Écrite pour et avec l'ensemble Atlas en 2012, Orior demande à réunir un instrumentarium non traditionnel. Ou plutôt si, hyper traditionnel, car provenant de quantités de cultures traditionnelles différentes. Un héron chinois, un kanoun arabe, kamanché turc, kamancha iranien, doudouk arménien, orgabouche sheng ou sho de Chine et du Japon, setar iranien, tar afghan, pipa chinoise, santour iranien et bien d'autres. Mais ce n'est pas tout. Yeah. avec ses sons bruts, ses bruits inclus dans l'ensemble. On retrouve dans l'écriture de Antti Auvinen l'énergie et l'incandescence que son compatriote Magnus Lindberg avait déployé dans Kraft au début des années 80. Du bruit industriel aux gestes les plus vifs ou saturés, le parcours de Orior est semé d'embûches, de tressauts, de sursauts, sans jamais tomber ou trébucher. Pour laisser place, au fur et à mesure, à des plages sereines, où les instruments traditionnels, de plus en plus apprivoisés par les musiciens de l'ensemble, trouvent leur espace d'expression, plus proche de leur culture d'origine. Dans Orior, le talent de Auvinen est de faire se rencontrer des sons qui ne se sont jamais rencontrés. Comme le doudouk arménien, dont le chant se pose sur une texture grinçante et lisse. Ou le duo entre le kamanché iranien et les flottements de cordes frottées dignes des frémissements chers à Salvatore Charlino. Il n'est pas question ici de parler de métissage ou de World Contemporary Music, même si cette expression n'existe pas encore. Sous la plume de Antti Auvinen, les mariages, les rencontres, les montages paraissent évidents, jusqu'à l'émergence de sons électroniques. On dirait plus un montage de gestes instrumentaux, d'énergie, que les instruments procurent à leur exécutant. De plaisir aussi, comme si le compositeur mettait dans son œuvre tout ce qu'il aime. Un quod libet, en somme. Étymologiquement, ce que l'on aime. Une fricassée de ce qui fait la culture résolument moderne de Antti Auvinen. fin de notre quatrième épisode du Cri du Patchwork sur le patchwork. Merci à Perrine Minguillet aux commandes et à la réalisation du Cri du Patchwork. Nous avions aujourd'hui la technique Jean-Michel Bernot. Merci à Flora Sternadel qui nous trouve toujours les sons qu'il faut trouver. Vous pouvez écouter l'intégralité de l'œuvre de notre Zoom du jour, Orior de Antti Auvinen, au sein de la nuit spéciale organisée par Anne Montaron autour de la 61e Tribune internationale des compositeurs, diffusée dans la nuit du 10 au 11 mai dernier, évidemment disponible sur le site de France Musique. La semaine prochaine, une émission toute en virage, hors sujet, pour terminer la première année du Cri du Patchwork. Nous plongerons dans les musiques hantées, les sons de la hantise, l'anthologie, pour résumer, en compagnie de Philippe Baudouin, grand spécialiste de la question, qui viendra accompagner d'archives et d'enquêtes inédites sur des esprits frappeurs, des fantômes sonores. D'ici là, si vous voulez connaître toutes les infos de chaque extrait diffusé dans cette émission, rendez-vous sur notre site internet où vous pourrez également podcaster l'émission. Chers écoutants.
Si je fais 1, Togaram, 1, parap, 2, ça suffit. Un, il sait ce qu'il a à faire. 1, parap, 2, 3. C'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein, bonjour, au revoir. Voilà.
France Musique, il est 17h, l'heure de retrouver Arnaud Merlin et son All That Jazz. Bonjour Arnaud Merlin.